9h-10h. À votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ah, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Il m'a dit, on va faire le jingle. Est-ce que vous voulez faire le jingle?
Oui, comment on appelle ça? Alors, à votre spiritualité avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun.
Vous le faites drôlement bien, moi, je
trouve. T'as vu
ça? Ah, ouais, là, il y a du budget. Bonjour, bienvenue, bon ramadan, ravi de vous retrouver.
Il faut faire le bed, sinon, c'est pas ça?
Le bed, le tapis musical.
Tapis musical. Alors, ouais. Ça serait comment?
Ah, ça, je ne sais pas, c'est vous qui faites.
Ouais, mais c'est difficile de faire les deux en même temps.
Ah ben non, je fais la voix à ce moment-là, je fais la voix, vous faites des tapis musicaux. Bien ravi de vous retrouver, vous le savez, nous sommes ensemble pendant une heure pour parler d'islam. L'émission est à votre disposition, donc vous pourrez poser vos questions tout à l'heure 01 53 48 3000. Bonne journée de ramadan pour ceux qui jeûnent, c'est le 18e jour hein, aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, on est 18e jour, on commence à voir de loin le bout du ce qu'on appelle le tunnel.
Faut profiter, 18e jour, on est encore dans la deuxième décade, donc tranquillement, on termine la deuxième décade, tranquillement. Mm-hmm. Voilà. Donc, Imam Abdelali, on garde les bonnes habitudes de cette émission. On commence par une question qui fâche. On va parler de vêtements aujourd'hui. Est-ce qu'il existe des vêtements dits religieux ou, comme le disent certains, des vêtements sunna ou conformes à la sunna?
Eh bien, je dirais tout simplement non et non et encore non. Il n'existe pas de tenue vestimentaire qu'on peut appeler islamique. Et encore moins qui aurait pour mission de signifier l'appartenance musulmane de la personne qui le porte. Je répète, il n'existe pas en islam de djellaba, babouche, hijab, tchador, burqa, je ne sais pas quoi, qui signifierait aux autres, notre appartenance à l'islam et à la communauté musulmane. Ça D'accord. n'existe pas. Il n'y a aucun texte qui va dans ce sens-là. Par contre, ce qui est demandé dans les règles, règles vestimentaires de bienséance, le fait qu'un homme et une femme doivent être habillés, on doit s'habiller. C'est ce qui nous distingue des animaux, c'est que les êtres humains, eux, ils portent des vêtements, ils couvrent leur nudité, de manière à nous démarquer du monde animal. Et c'est ce qui fait de nous des êtres humains, c'est ce qui fait de nous des êtres civilisés et qui ont une vertu qui s'appelle la pudeur. La pudeur qui est une caractéristique propre à l'être humain. Il y a aussi chez certains animaux, ça peut exister aussi cette pudeur, mais elle est véritablement ancrée dans la culture de l'humanité depuis le début des temps. Adam et Ève au paradis n'étaient pas habillés, mais Dieu avait miraculeusement fait en sorte que leur partie intime soit floutée au regard des autres. Personne, quand Hawa, c'est-à-dire Ève, regardait son mari ou que Adam regardait sa femme, il ne voyait pas la nudité, c'était flou, il y avait un flou qui était là. Peut-être c'est la présence d'un ange qui faisait que cette nudité soit cachée. Et Allah Azza wa Jal avait fait en sorte que Sayyidina Adam et Hawa ne soient pas apparemment nus ou dénudés au paradis jusqu'au moment où ils étaient déroutés par Shaitan. Dieu dans le Coran, il évoque, il dit « Ya bani Adam ala yaftinannakum ash-shaytan » كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. Donc, ô fils d'Adam, ne soyez pas tentés par le diable, comme il a fait sortir vos parents du paradis et il a enlevé il a fait en sorte que leur nudité soit apparente. Et bien sûr, à partir de là, ce qu'a fait Adam et Hawa, hein, ils ont commencé à utiliser les feuilles des arbres pour commencer à se couvrir. Ça a été le premier vêtement de l'humanité, c'est celui que a utilisé Adam en utilisant des feuilles des arbres. وَطَفِقَ يَرْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Ils ont commencé à prendre les feuilles des arbres du paradis afin de couvrir leur nudité au moment où est-ce que elles ont commencé à apparaître. C'est tout simplement parce qu'il y avait quelque chose de naturel chez Adam et Ève, c'est qu'ils avaient de la pudeur, ils avaient honte de montrer leur nudité. Et ça, c'est le propre de l'homme, de ne pas montrer ses parties intimes dans un espace public, à part bien sûr pour son partenaire, pour son conjoint, pour son mari ou pour sa femme. Parce que là encore, il y a un excès dans la pratique religieuse, c'est de s'imposer même une tenue vestimentaire, d'être habillé ou de ne pas montrer sa nudité devant son conjoint. Hein, non, là-dessus, c'est excessif. On devient plus royaliste que le roi. Le prophète Aslam prenait son bain avec sa femme Aïcha, totalement dénudée, dans un même seau, dans un même grand tonneau. Ils prenaient leur douche ensemble et ils étaient complètement dénudés. Et c'est ainsi qu'en islam, il est donc accepté qu'un homme et sa femme soient l'un pour l'autre un vêtement. Hein, Dieu, dans le Coran, dans la sourate 187, justement, où est-ce qu'il parle du droit des jeûneurs de consommer des relations les nuits du Ramadan, il dit « Uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafathu ila nisa'ikum » Il vous est permis, les nuits du Ramadan, de consommer des relations avec vos épouses. Il dit ensuite « Hunna libasun lakum » Elles sont un vêtement pour vous. « Wa antum libasun lahun » Et vous êtes, vous, un vêtement pour elles. Donc, un homme et sa femme, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas de dignité à avoir l'un pour l'autre. La dignité, c'est justement dans cette fusion qu'il y a entre un homme et sa femme. Mais après, les autres, non. Même ses enfants, même ses frères, ses parents, qui que ce soit, on ne doit pas montrer sa nudité à qui que ce soit. Il y a un devoir de pudeur et de réserve. C'est, moi, à mon avis, le vrai combat entre un certain courant occidental qui veut que la société se dénude et qui veut que la société... Et je crois que c'est vraiment, moi, à mon avis, là, le problème quand on parle de signes religieux, de voile islamique, de guerre contre la burqa, etc., que véritablement, derrière, il y a des gens qui cherchent à dire, ben non, pourquoi il faudrait s'habiller, on devrait pouvoir se promener à poil ou dénudé ou légèrement habillé dans la rue. Je vois pas pourquoi il y aurait quelqu'un au nom de la religion, au nom de Dieu, qui nous imposerait de s'habiller devant autrui. Non, personne n'impose à quiconque de s'habiller devant autrui. Il n'empêche que dans l'espace public, faut bien faire un choix. Soit on dit non, il y a attentat à la pudeur, on ne peut pas, par exemple, copuler avoir une relation sexuelle publique devant les autres, ou soit on dit non, ben c'est pas grave, on est comme les animaux, il n'y a pas de différence, c'est naturel, c'est normal, donc c'est pas grave si on se dénude et si on pratique ce genre de choses dans la rue. La société, heureusement aujourd'hui, a encore la pudeur de dire non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ce genre de choses dans l'espace public. Il y a un minimum de respect à l'égard des gens, des enfants, des personnes qui sont dans le trottoir et qui partagent le même endroit et qui sont obligés de le partager ensemble, parce que pour se déplacer, on est obligé d'utiliser la voie publique. Et là, à ce moment-là, il y a des règles vestimentaires qui s'imposent à toutes et à tous. Et là-dessus, Dieu le confirme dans les préceptes de l'islam.
Mais est-ce qu'il y a, Imam Abdelali, des vêtements qui sont des signes d'appartenance religieuse, qui sont considérés comme...
Il y a des gens qui pensent cela, que porter un voile, c'est un signe religieux.
Donc là, vous avez dit que vous...
Ça n'existe
vous
pas.
Pensez.
Le et voile ça veut dire... islamique, c'est-à-dire le voile qui définit, qui a pour mission de dire que je suis d'appartenance musulmane, ça n'existe pas. Il n'y a pas de voile islamique, donc arrêtons cette polémique. Là, récemment encore au Sénat, un amendement a été voté pour interdire les femmes
Alors, qui notamment... Les sorties des mères.
Hein. Les sorties des mères accompagnatrices qui porteraient des signes religieux et qui auraient donc un devoir de neutralité, donc de ne pas tenir, de ne pas de porter de vêtements religieux, de signes d'appartenance religieuse. Je le répète à tous ces gens, à tous ces politiques, que le voile n'est pas un signe religieux. C'est une règle de vestimentaire, de bienséance. Ça n'est pas... et il y en a qui le considèrent comme étant une manière de cacher sa parure ou sa nudité ou ses parties intimes, cette aura. Et il y en a qui disent non, c'est pas nécessaire. Hein, l'important, c'est de faire le minimum, c'est-à-dire de cacher ses parties intimes. Ses parties, donc les parties qui sont considérées comme aujourd'hui comme étant reconnues qui font l'objet d'interdiction et de condamnation à attentat à la pudeur. Et à partir de là, l'islam, lui, impose peut-être un peu plus de cacher le corps, notamment celui des femmes. Chez les hommes, il impose entre le nombril et les genoux. Pour ce qui est de devoir de la femme, le consensus des savants est que la femme doit couvrir l'intégralité de son corps et ne doit laisser apparaître que les mains et le visage. Je parle de consensus des savants. Maintenant, on m'a effectivement, il y a eu toute une polémique autour de ce que j'aurais dit, moi, ce que j'ai dit, je ne dis pas que j'aurais dit, que j'ai dit dans un média français, dans une autre radio, et où est-ce qu'on m'a dit, est-ce qu'il existe dans le Coran le fait, l'obligation d'une femme de porter, de se couvrir les cheveux. J'ai répondu non. Il n'y a pas dans le Coran un texte clair, évident, qui dit à la femme de rabattre son voile sur la tête. Il est dit de rabattre son voile sur sa poitrine, de cacher ses parures. Et j'en passe, et des meilleurs. Donc, même la traduction qui a été faite de Sourate Al-Ahzab, hein, de rabattre sur elle leur djilbab, qui a été traduit par grand voile, c'est complètement absurde. Moi, ce que j'appelle un djilbab, et tout le monde le sait, un djilbab, c'est un manteau. C'est une tenue que la femme porte à l'extérieur. Un djilbab, comme on dit chez nous dans le Maghreb, djilaba. La djellaba, c'est pas ce qu'elle porte sur la tête. La djellaba, c'est ce qu'elle porte sur le corps. Donc effectivement, la femme va cacher sa poitrine, va cacher son corps, va cacher sa parure. Mais pour ce qui est des cheveux, ça n'est pas dans le Coran. C'est le consensus, certes, des savants qui s'est prononcé et qui en a fait l'interprétation pour dire que les cheveux font partie de cette, des parties intimes que la femme doit cacher aux hommes, qui sont pas des mahrams. Je respecte cette opinion. Elle est consensuelle, certes, mais aller dire maintenant qu'elle est conforme à la parole coranique, c'est faux. Il n'y a pas dans le Coran cette injonction-là. Je le rappelle. C'est un consensus des savants. Alors vous allez me dire, alors, et la tradition musulmane, et la sunna, qu'est-ce qu'elle dit ? Eh bien, la sunna, en la matière, elle se résume de la manière suivante. Tout ce qui est évident et qui définit de manière claire le fait de couvrir ses cheveux, où le prophète aurait dit de couvrir ses cheveux, n'est pas authentique. Aucun hadith dans ce sens-là est authentique. Et inversement, tout ce qui est, par contre, authentique, n'est pas clair. Soit c'est clair et pas authentique, soit c'est authentique mais pas clair.
Alors pour faire la prière, est-ce qu'il y a une
agence? Ah non, là c'est autre chose. D'accord. Là je vous parle de ce que doit porter la femme devant un étranger.
Je vous dis ça parce que Imam Abdelali, ça fait quand même longtemps que je vous connais, et je ne vous ai pas toujours entendu dire ça.
Oui. Oui, bah écoutez,
je vous ai pas toujours entendu dire ça. C'est pour ça que bon, alors évidemment certains de nos auditeurs peuvent se demander de quoi vous parlez, parce que c'est vrai
que
vous n'êtes pas si nombreux.
Mais attends Philippe, ça n'est pas mon opinion. Je suis en train depuis tout à l'heure d'évoquer les opinions et de ce qui est sur le terrain. Je parle de faits. Est-ce qu'il y a dans le Coran un texte clair qui dit à la femme de couvrir ses cheveux ? Non. Il y a dans le Coran un texte évident qui dit à la femme de rabattre son voile sur la poitrine. Mais est-ce que le voile doit partir de la tête ou partir de derrière la nuque, c'est pas précisé. Le verset dans Sourate Al-Ahzab, les coalisés, qui dit de rabattre sur elles leur djilbab, le mot djilbab qui a été traduit en français par grand voile, c'est faux, c'est une mauvaise traduction. Le mot djilbab, et tout le monde le sait, le djilbab, c'est un manteau que la femme porte sur son corps et pas sur sa tête. Donc, dans ce verset-là, il n'y a pas, de manière évidente, de manière explicite, l'obligation pour une femme de couvrir ses cheveux.
Pour être clair pour tout le monde, quand vous donnez cette traduction du mot djilbab, vous la tenez d'où ?
Mais n'importe qui, demandez à n'importe
donc
qui.
Il y a consensus.
Montre-moi ce que c'est qu'un djilbab. Est-ce qu'il va te sortir un tissu qu'on met sur la tête ou un vêtement qu'on met ?
Je ne suis pas spécialiste en djilbab.
C'est quoi un djellaba, Philippe ?
Je ne suis pas spécialiste en djilbab ni en djellaba. Donc je vais savoir si tout le monde est d'accord sur la traduction du mot djilbab.
Eh ben non, justement.
Voilà,
c'était aussi évident, je serais d'accord avec toi, mais tout le monde n'est pas d'accord sur la question. Mais moi, je veux dire franchement, au commun des mortels, quand on demande de manière traditionnelle qu'est-ce que c'est qu'une djellaba, personne va vous sortir. Je te dis, sors-moi de ton armoire une djellaba, il va pas te sortir un voile, il va te sortir un manteau, une sorte de robe longue qui tombe et qui descend jusqu'aux chevilles. Personne ne va te mettre un vêtement qui couvre les cheveux. Je répète, il n'y a pas dans le Coran de texte qui impose à la femme de couvrir ses cheveux. Mais malgré cela, je le répète, il y a un consensus, l'unanimité des savants musulmans qui impose à la femme de couvrir ses cheveux. Pourquoi ? Comment ? Jusqu'à maintenant, je cherche. Je n'ai pas encore trouvé ma réponse. Hein ? Alors, on nous sort parfois un hadith, hein, justement, que je vais évoquer, qui dit quoi ? Dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, qui est authentique, hein, qui est rapporté par Ahmed et Muslim, « Sinfani min ahli nar lam arahuma ba'd ». C'est souvent ce hadith-là qui sort. Hein, il y a deux catégories de gens que je n'ai pas encore vus. Il dit rijalun ma'ahum siyatun ka'aznab al-baqar, des hommes avec des fouets comme des queues de cheveux, de vaches ou de bœuf, hein, des queues de dont des fouets. Donc ils ont des fouets dans les mains. Yadribuna biha an-nas, qu'ils frappent avec les gens en enfer. Wa nisaa'un, et des femmes, kasiyatun 'ariyat, habillées et déshabillées. Je traduis mot à mot, hein. Ma'ilatun mumilat, penchantes et qui fait pencher, qui font pencher les hommes et donc qui déroutent les gens et qui détournent les gens. Ala ru'usihinna ka asnimatil buhtil ma'ila, elles ont dans leur tête des chignons de la même manière que la bosse d'un chameau. Je traduis, hein. Je traduis, elles ont, je répète, ala ru'usihinna ka asnimatil buhtil ma'ila, sur leur tête des chignons tels des bosses de chameau. La yadkhulna al-janna, elles ne rentreront pas au paradis. Wala yajidna rihaha, et n'en sentiront même pas l'odeur. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada, alors que son odeur on peut la sentir d'une distance très 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 grande. Hadith rapporté par Ahmed et Muslim dans l'Authentique de Muslim. Alors on va utiliser ce hadith pour dire que puisque Dieu, le prophète, a condamné al-ariyat al-kasiyat, celles ces femmes qui sont à la fois habillées et déshabillées, eh bien ça veut dire que les mutabarrijat, c'est-à-dire les femmes qui se dévoilent la tête, eh bien, sont considérées en faute à l'égard des règles vestimentaires divines et qu'elles ont donc, de ce fait, l'obligation de se couvrir les cheveux. Mais je répète, même ces savants-là, en aucun cas, on ne trouve dans ces avis-là, un vêtement qui a pour objet de signaler aux autres notre appartenance à l'islam. Ça n'existe pas de vêtements islamiques. Donc chacun suit ses traditions. Celui qui est français suit les traditions françaises. Il porte un costume ou un survêt ou un pantalon ou un jean ou ce qu'il veut. Il n'y a pas. Et voilà, on s'arrête là puisqu'effectivement.
Ah, c'est bien parce qu'on vous fait des signes depuis au moins 2 minutes, Imam Abdelhadi.
C'est pas grave.
Merci de freiner. On revient dans un instant, de toute façon, puisque l'émission continue, et on va continuer à parler de vêtements aujourd'hui. Et nous allons parler des métiers, justement, de la mode, comme le couturier. Vous serez bien sûr les bienvenus pour poser vos questions à l'imam tout à l'heure au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
9h-10h. À votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. 9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, on est beaucoup autour du vêtement ce matin dans cette émission Imam Abdelali Mahmoud. Vous pourrez d'ailleurs poser vos questions au 01 53 48 3000 dans un instant. On parle des métiers qui tournent autour de la couture. Alors le couturier, par exemple, Imam Abdelali, le couturier, qu'il se soit le couturier dans un atelier ou alors celui qui travaille sur mesure.
Eh bien, c'est une activité artisanale comme une autre qui, effectivement, est tout à fait conforme aux préceptes de l'islam. On appelle ça en arabe le khayat. Ce khayat-là peut, effectivement, pratiquer son activité, quel que soit le vêtement qu'il va proposer à ses clients, même si ce sont des vêtements qui sont considérés comme étant, s'ils devaient être portés à l'extérieur, incompatibles avec les préceptes de l'islam. Par exemple, un couturier qui fabriquerait des mini-jupes ou des décolletés ou des vêtements transparents, etc. Islamiquement parlant, il a tout à fait le droit de le faire et même de le vendre. Et cela n'est pas du tout incompatible avec l'islam. C'est celui qui va l'acheter et comment il va l'utiliser qui est responsable devant Dieu de ce comment il a utilisé ce vêtement. Si une femme achète un vêtement transparent chez un couturier et qu'elle le porte à l'extérieur, le couturier n'est en rien responsable de l'attitude de cette femme-là d'avoir choisi de porter un vêtement transparent et qui donc est effectivement incompatible avec les préceptes de l'islam et le devoir de pudeur de cette femme. Parce que le couturier peut très bien évoquer le fait que « Madame, je ne vous l'ai pas vendu pour vous le portiez à l'extérieur, mais que vous le portiez chez vous, devant votre mari, vos enfants, etc. » Là où est-ce qu'effectivement, il n'est pas impossible pour une musulmane de s'habiller de telle manière. Donc, à partir de là, il faut bien comprendre que le couturier, lui, il a le droit de vendre ce qu'il veut et comme il veut, y compris les sous-vêtements, les lingeries féminines, etc. Même de les vendre aussi, il y a des magasins qui proposent de vendre des lingeries féminines, sexy, etc. Je répète que cela n'est pas du tout incompatible avec l'islam. Et à partir du moment où est-ce que l'objet
Non seulement d'en faire le métier, de les fabriquer et de les vendre, on est d'accord.
Oui, il n'y a aucun problème. Mmh. Au contraire, il n'y a aucun problème. L'islam n'interdit pas à une femme d'être séduisante pour son mari, pour son conjoint. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si elle est chez elle, elle peut porter de la lingerie fine, enfin raffinée, des dentelles, etc. Il n'y a aucun problème. Ce qui après va être proscrit, c'est que si elle le porte sans rien d'autre, à l'extérieur, devant des hommes étrangers. Mais si elle le fait, est-ce que
là,
le couturier...
Vous êtes en train de parler de quelqu'un qui va se balader en sous-vêtements dans la rue.
Supposons.
Ah oui, bah, par exemple, c'est pas très courant non plus, Imam Delali.
Je dis bien, supposons que, que la personne le fait, eh bien, le couturier n'est en rien responsable. Mm. C'est comme moi, je vends des couteaux. Hein, je te vends des couteaux, je te vends pas des couteaux pour que tu ailles tuer des gens avec. Mais si tu vas tuer des gens avec, est-ce que je suis responsable, moi, est-ce que je suis autant criminel que toi? Bien sûr que non. Moi, je t'ai vendu un couteau pour couper la viande, couper les légumes, l'utiliser à bon escient. Si après, toi, tu l'utilises à mauvais escient, c'est ton problème, tu es seul responsable devant Dieu. Voilà ce que dit l'islam, c'est qu'il y a séparation des responsabilités entre celui qui fabrique, qui propose ce produit-là et celui qui l'utilise à mauvais escient. L'islam, moi, je n'ai jamais proposé. Par contre, un produit qui essentiellement, où que l'on soit, est proscrit, je ne peux pas dire non, je t'ai vendu de l'alcool, c'est toi qui l'as consommé. Non, l'alcool en lui-même est interdit. Sa consommation, comme sa vente, comme sa fabrication. Donc je ne peux pas dire là, à ce moment-là, ouais, non, mais c'est toi qui. Moi, je l'ai vendu, c'est toi qui l'as bu. C'est donc c'est toi qui. Non, tu l'as vendu, mais déjà le vendre, c'est proscrit. Et le transporter, le ramener dans ton magasin et le. Voilà. Et en faire un business, c'est totalement proscrit. Alors que là, il s'agit de vêtements. Donc, on s'habille légèrement pour séduire son mari. Et c'est ce fameux hadith qui dit que des femmes qui s'habillent et qui à la fois sont déshabillées, l'islam n'interdit pas forcément à une femme d'être à la fois habillée et sexy dans ses vêtements à partir du moment où elle le fait pour son mari. Si elle le fait dans un but de cultiver l'amour entre elle et son conjoint, de satisfaire les besoins de son conjoint, et j'invite aussi les maris à faire la même chose, pas à mettre des vêtements les mêmes, mais aussi d'être parfumé, de sentir bon, d'être agréable, d'être de cultiver, si tu veux, je vais dire une envie chez sa femme, une attirance pour que sa femme puisse continuer à avoir envie de lui et continuer à l'aimer. Aujourd'hui, malheureusement, on a se laissé aller que la séduction ne se fait qu'au début de ou les quelques premiers mois du mariage et après on rentre dans une routine absurde qui dégrade les couples et qui provoque souvent des divorces à cause de la monotonie du couple qui ne fait aucun effort pour cultiver l'amour et cultiver les relations entre eux. Non, mon frère, ma sœur, faites tout ce qu'il faut pour cultiver cette relation, mettez des vêtements séduisant, continuez dans cette logique de séduire votre partenaire pour justement alimenter cet amour, ces sentiments l'un pour l'autre, cette attirance l'un pour l'autre et pour que chacun ne puisse se passer. Dieu dans le Coran dit « Hunna libasun lakum » Vous êtes un vêtement pour eux et elles sont un vêtement pour vous. Voilà en gros.
Alors je voulais qu'on accueille Ahmed.
Attends, il y a juste un petit détail. Avant de prendre Ahmed, juste
non, parce qu'on pourra pas le prendre, on pourra pas le prendre après parce qu'on va
y avoir un peu. Je dirai ce que je voulais dire après.
Alors Ahmed, bonjour et bienvenue. Je ne voudrais pas qu'il patiente trop longtemps. Ahmed, bienvenue.
Allô, bonjour.
Bienvenue sur le RFM. On vous écoute, Ahmed.
Bonjour. Voilà, je vous appelle concernant une question sur la nudité de la femme.
Oui.
C'est que j'ai découvert que mon épouse, en fin de compte, elle avait une vidéo pornographique et je suis perturbé et en fin de compte. Je suis déboussolé et j'ai envoyé un message à l'imam hier soir justement par rapport à ça et j'ai pas eu de retour.
Alors bien sûr avoir visionné des vidéos pornographiques est totalement proscrit puisqu'il s'agit là de regarder des hommes et des femmes totalement dénudés et de surcroît en plus en train de pratiquer donc des rapports sexuels et donc tout cela bien sûr est totalement proscrit en islam. Et il faut purifier son regard, purifier son cœur de ce genre de vice, hein, parce qu'aujourd'hui c'est considéré comme un vice au sein même de la communauté musulmane, comme dans l'ensemble de la société. Hein. On fait partie nous des citoyens du monde, et aujourd'hui malheureusement à cause de la technologie, et ce genre de choses est de plus en plus accessible, alors qu'avant c'était plus compliqué. Il fallait avoir Canal+ et regarder à quelle heure, je sais plus quelle heure, très tard. Pour pouvoir avoir la possibilité de regarder des vidéos pornographiques. Aujourd'hui, non. Maintenant, n'importe qui, il suffit d'ouvrir un site pornographique et vous avez sur votre smartphone la possibilité de regarder tout ce que vous voulez. Donc là, effectivement, le musulman est invité à faire preuve de pudeur à l'égard d'Allah Azza wa Jal, à l'égard de Dieu, et de se préserver de ses péchés du regard. Hein, parce que l'œil, comme dit le prophète, commet la fornication, « al-ayn tazni », de la même manière que les parties intimes aussi pratiquent la fornication, les yeux aussi pratiquent la fornication, et vous ferez l'objet de châtiment ou de pardon venant d'Allah Azza wa Jal, s'il veut bien vous pardonner. Mais en tout cas, c'est quelque chose que Dieu réprouve et condamne fermement que de visionner ce genre de choses. C'est quelque chose qui doit relever de l'intimité de l'homme et la femme. Et je le répète, c'est ce qui nous distingue des animaux. C'est de justement, quand on veut avoir des relations avec son conjoint ou sa conjointe, eh bien on le fait dans l'intimité, on le fait dans sa chambre, en privé, et personne n'a le droit de visionner. Et c'est pour cela que je dénonce aussi certains conjoints qui prennent en vidéo cachée leur première ou leur relation avec leur conjointe et vont montrer ça aux autres. Hein, le prophète a dénoncé cette attitude de rien que d'écrire avec les mots ce qu'elle a fait avec sa femme ou avec son mari aux autres. Hein, à quoi bon se cacher si après je vais moi devoir décrire ce que j'ai fait avec ma femme? Ouais, j'ai eu telle et telle manière de sexualité, ou ça m'a coûtera, ou je sais pas quoi là. Toutes ces postures et tout.
Non, mais là, l'auditeur était perturbé parce qu'il a vu sa femme qui regardait un
peut-être film, qu'elle le faisait parce qu'elle était pornographique.
Donc là,
elle a été tentée par le diable.
Ça peut arriver dans un couple l'un ou l'autre des conjoints surprennent l'autre.
Il faut rappeler que c'est pas de l'infidélité. Il faut simplement rappeler à l'ordre son partenaire et lui dire faire la nasiha, taqillah. Voilà, c'est justement, on est là pour ça, que l'homme est là pour la femme un rappel, un vêtement, une résistance à la tentation, et la femme est une résistance pour son mari. Donc dans les deux sens, ça doit se faire. On doit s'entreconseiller dans le bien et s'interdire le blâmable, comme le dit le Coran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Bien, tout à l'heure, nous allons voir l'histoire de la sourate 7, versets 25, 26, 27 et 28. Et vous pouvez bien sûr poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. 9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec l'imam Abdelali Mamoun, vous posez vos questions dans un instant à l'imam Abdelali au 01 53 48 3000. J'aimerais, imam Abdelali, que vous nous racontiez l'histoire des versets 25, 26, 27 et 28 de la sourate Al-A'raf.
Al-A'raf, ça veut dire les murailles ou les remparts, qui sépare, selon certaines traditions, le paradis de l'enfer. Et il y aurait sur ces remparts des personnes qui ne méritent ni le paradis ni l'enfer, et qui reste là. Ou ala al-a'raf rijal, dit Allah azza fil Qur'an al-Karim, qui sont finalement là et qui attendent en suspendu entre l'enfer et le paradis, mais qui finalement après rentrent au paradis, bien sûr, grâce à la miséricorde d'Allah azza wa jalla. Bon, ça c'était pour la sourate. Maintenant, pour les versets que l'on a choisis, sélectionnés, c'est celle qui justement nous parle de ce que pratiquaient les Quraysh, les habitants de la Mecque, le tawaf totalement nu. Au nom d'une soi-disant volonté de plaire à Dieu, il tournait autour de la Kaaba totalement dénudé en marchant en arrière. C'est-à-dire, il marchait à reculons. Il tournait autour de la Kaaba. En sens inverse. En sens à reculons, mais totalement dénudé. Et quand on lui a dit, mais pourquoi vous faites ça? Eh bien, il dit, c'est Dieu qui nous a ordonné de faire ça. Et Dieu est venu dénoncer. Il dit, comment ça? Moi, j'ai ordonné à quelqu'un, à un homme, d'être dénudé. C'est pas possible. Et donc Dieu, il le dénonce dans ce verset-là que je vais vous lire, inshallah ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. Et quand ils accompliront un acte de turpitude, ils diront : nous avons trouvé cela auprès de nos ancêtres et c'est Dieu qui nous l'a ordonné. Dis-leur, ya Mohammed, donc c'est Dieu qui parle à son prophète, Dieu n'ordonne pas ce qui est détestable et blâmable. Pourquoi diriez-vous sur Dieu ce que vous ne savez pas ? Donc là, Dieu, bien sûr, dans ce verset-là, condamne cette attitude, ce fahsha, cette pratique que Quraysh pratiquait avant l'avènement de l'islam, de la période de la jahiliya anté-islamique, cette ignorance de ce peuple mécois qui pratiquait ce tawaf, cette circumambulation autour de la Kaaba, hein, en état de dénudé, totalement dénudé, alors que Allah Azza wa Jalla a totalement condamné ce genre d'attitude parce que il n'a jamais approuvé qu'un homme et une femme se dénudent devant publiquement, devant autrui. Et qu'à partir de là, il est invité à, au contraire, être bien habillé, les femmes y compris. Hein, quand on parlait tout à l'heure du voile, quand on parle de rituel, il y a effectivement tout un panel de hadiths qui impose à la femme, à la musulmane, qu'au moment où elle est dans la prière, elle doit couvrir l'intégralité de son corps et ne doit laisser apparaître que les mains et le visage. Même le visage, elle n'a pas le droit de le cacher quand elle est en prière ou quand en l'état de sacralisation et qu'elle tourne autour de la Kaaba, elle n'a pas le droit de cacher son visage. C'est clairement prescrit dans les textes du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc à partir de là, dans ce hadith, dans ce verset du Coran, donc Allah Azza wa Jalla évoque justement le fait que l'homme, il s'adresse toujours au Bani Adam, au fils d'Adam, il ne dit pas « au vous les gens », il dit « au fils d'Adam, au vous les fils d'Adam ». Ya Bani Adama, Ya Bani Adama, ne soyez pas détournés, déroutés par le diable et ses suppôts qui vous tentent à vous dénuder, à montrer votre nudité, car cela est particulièrement non apprécié au regard d'Allah Azza wa Jal, car il vous considère comme une créature élue et choisie par lui, et que de ce fait, vous devez cacher votre corps et ne pas la montrer qu'à part, à l'exception de votre conjoint, qui est lui un vêtement, comme dit le Coran, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Voilà.
Bien, alors Imam Abdelali, on va vous retrouver ce soir. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que l'ADEN, vous le faites en direct tous les soirs sur Beurre FM. C'est à 21h39 ce soir.
Inch'Allah. Donc, voilà. Je vais répondre à la demande de Fatima Zora, que je parlerai ce soir de comment corriger les erreurs qu'on peut faire dans la prière.
Voilà, on vous retrouve ce soir à partir de 20h.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.